France Culture.
C'est le journal de la rédaction, Julie Paco, bonjour.
Bonjour Marina, bonjour à tous. Pas de soutien militaire et encore moins de missiles Tomahawk. Donald Trump recule face aux attentes de Volodymyr Zelensky reçues hier à la Maison Blanche. S'agit-il de gagner du temps avant le sommet de Budapest ou d'un changement de doctrine ? Analyse à suivre. Nous reviendrons sur la dégradation de la note de la dette souveraine française par l'agence de notation S&P hier soir et le ministre de l'économie qui y voit un appel à la responsabilité. C'est un tabou qui coûte cher, celui de la ménopause et de ses symptômes qui coûteraient plusieurs millions d'euros à la société et 4% de revenus en moins pour les femmes concernées. Enfin, on parlera des free parties et de la répression qui s'accentue en France envers ces fêtes libres, inclusives et de plus en plus populaires. Notre invité est Alexandre Grondeau, professeur des universités en géographie à Aix-Marseille Université. Est-ce un nouveau revirement de Donald Trump ? Le président américain a en tout cas changé une nouvelle fois de braquet hier en recevant Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche et resté sourd aux demandes de soutien militaire réclamées par le président ukrainien. Donald Trump le pressant de mettre un terme aux hostilités et renvoyant dos à dos l'agresseur et l'agressé. Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky devraient s'arrêter là où ils sont, qu'ils clament tous les deux victoire, a ainsi écrit le milliardaire sur son réseau social. Bonjour Kalimania.
Bonjour Julie.
Le dirigeant ukrainien est donc reparti à Kiev les mains vides et sans les missiles de croisière Tomahawk, contrairement à ce que Donald Trump avait laissé entendre ces derniers jours.
Oui, comme quoi la doctrine trumpienne de la paix par la force qu'il a tant vantée autour de l'accord au Proche-Orient est à géométrie variable. Donald Trump ne veut pas provoquer d'escalade vis-à-vis de Moscou en fournissant des missiles de longue portée Tomahawk à l'Ukraine. Au grand dam, c'est vrai, de Volodymyr Zelensky, il renonce là à un levier de pression très concret, comme il les aime quand il négocie face à Vladimir Poutine. C'est d'autant plus difficile à encaisser pour les Ukrainiens qu'ils avaient l'impression d'avoir enfin avec eux un Donald Trump ces derniers temps déterminé à mettre la pression sur Vladimir Poutine, constatant que celui-ci ne faisait pas d'efforts réels pour parvenir à un arrêt des combats. Trump, qui s'était fait menaçant mardi vis-à-vis du Kremlin à propos des Tomahawks, mais qui finalement a longuement discuté jeudi avec le président russe avant de recevoir Volodymyr Zelensky, avec qui il est donc apparu hier à nouveau fuyant et proche des positions russes. Et puis, il y a, vous l'avez évoqué, cette rhétorique qui renvoie Poutine et Zelensky dos à dos, à égalité. Le président américain regrette ce qu'il appelle l'animosité entre les deux hommes, comme si c'était une histoire personnelle où les torts seraient partagés. Signe aussi qu'il se soucie peu des déterminants historiques profonds de ce conflit et de la responsabilité portée par la Russie dans son déclenchement. Donald Trump appelle donc les deux belligérants à arrêter les combats sur les lignes de front actuelles, faisant mine d'ignorer que pour l'Ukraine, ça voudrait dire renoncer à un cinquième de son territoire national. Et ça, c'est toujours inacceptable pour Kiev et ses alliés européens, car ce serait donner la victoire à l'agresseur russe qui, lui, pourrait alors se vanter d'avoir obtenu la paix par la force.
Camille Magnard de la rédaction internationale de Radio France. Et face à un président américain qui pense que son pouvoir est absolu, nous ne céderons pas. L'Amérique n'a pas de roi, rappellent des millions d'Américains qui s'apprêtent à défiler aujourd'hui dans les rues de New York à San Francisco en passant par la Nouvelle-Orléans. Plus de 2700 rassemblements sont prévus pour dénoncer les abus de pouvoir du président américain. Un mouvement qualifié de mobilisation haineuse contre l'Amérique par le camp Trump. 9 personnes ont été tuées hier dans des tirs israéliens contre un bus dans la bande de Gaza. C'est ce qu'affirme ce midi la défense civile de Gaza. Quelques heures après la restitution d'une nouvelle dépouille d'otages israéliens par le Hamas hier soir, les autorités israéliennes ont identifié le corps. Il s'agit d'Eliaou Margalit, 75 ans, qui aurait été tué au kibboutz de Nir Oz le 7 octobre 2023 avant que son corps ne soit enlevé. D'après les termes de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, le mouvement islamiste palestinien doit encore restituer à Israël 18 des 28 dépouilles d'otages. Après l'agence de notation Fitch, le mois dernier, la note de la dette souveraine de la France a été une nouvelle fois dégradée par S&P hier soir, passant de AA- à A+. Initialement prévue fin novembre, l'agence a donc accéléré son calendrier au vu des derniers événements politiques et face à la série de votes de confiance négatifs au Parlement qui entravent la consolidation budgétaire, justifient les analystes de S&P, qui anticipent un déficit élevé ces 3 prochaines années et une dette française qui pourrait dépasser les 120% du PIB en 2028. Servane de Pastre, bonjour.
Bonjour.
Alors, quelles sont les conséquences concrètes de cette dégradation ?
C'est tout d'abord un signal envoyé au marché. La
sécurité des emprunts français est dégradée. Il pourrait donc décider de prêter moins ou plus cher. Et ça, ça a des conséquences directes sur les Français, explique le ministre de l'économie, Roland Lescure. Il était chez nos confrères de France Info ce matin.
Ça a un impact très concret sur les taux du crédit de l'immobilier, sur les taux des crédits à la consommation, sur les taux des crédits pour les entreprises. Donc pour que ces taux-là, ils baissent, pour qu'on puisse relancer l'immobilier, relancer la consommation, relancer l'investissement, on a besoin d'un budget.
C'est un appel à la lucidité, à la responsabilité.
La France emprunte déjà des taux plus élevés que l'Espagne et le Portugal. Le ministre avertit donc les députés qui devront s'exprimer sur le budget ces prochaines semaines. Ils doivent permettre au pays de maintenir une trajectoire budgétaire, soit la réduction du déficit à 4,7% du PIB d'ici 2026. S&P, de son côté, doute des capacités de la France à tenir ses objectifs. Il faudrait pour cela que des mesures significatives soient prises, pointe l'agence. Roland Lescure, lui, se veut rassurant.
Pour les convaincre que nos estimations sont les bonnes, il faut qu'on vote notre budget. Ce débat parlementaire, il commence lundi en commission, il va s'étaler jusqu'à la fin de l'année. On a des atouts qui vont nous aider sur le chemin. L'agence elle-même, elle a souligné les très bons fondamentaux de l'économie française. On a une économie diversifiée, on a une croissance qui résiste, hein, et on a, c'est très important, un haut niveau d'épargne.
Mais la tendance semble déjà bien installée. Au mois de septembre, l'agence Fitch avait déjà privé la France de son double A. Moody's, une autre agence de notation devrait faire de même la semaine prochaine.
Servane de Pastre pour France Culture. Elle concerne la moitié de la population, mais elle est encore méconnue, souvent tue et peu étudiée. La ménopause, dont c'est aujourd'hui la journée mondiale, touche 14 millions de femmes en France. Et ses premiers symptômes, bouffées de chaleur, fatigue, irritabilité, troubles du sommeil, apparaissent en moyenne vers 51 ans. Un dérèglement hormonal qui peut conduire à d'autres pathologies telles que les troubles cardiovasculaires, des symptômes urinaires ou encore de l'ostéoporose. Mais la ménopause reste encore un sujet largement tabou. 48% des femmes n'osent pas encore en parler, d'après une récente enquête, et encore moins du coût de la ménopause qui est induit, Victor Dolande.
Preuve que le sujet est encore largement tabou, la France ne dispose pas de données solides sur la ménopause et encore moins sur ses conséquences économiques. Il faut donc regarder du côté des pays scandinaves et en Amérique du Nord pour analyser le phénomène. Florence Trémolière est professeure de gynécologie et directrice du centre de ménopause au CHU de Toulouse.
Pour le Danemark, les chercheurs avaient estimé que les symptômes de la ménopause faisaient que l'équivalent de 10 000 Danoises s'absentaient du travail chaque année, ce qui représentait en gros une facture de l'ordre de 50 millions d'euros. Un autre exemple, au Canada, en 2023, ils estimaient que les symptômes de la ménopause coûtaient environ par an 2,2 milliards d'euros.
Un coût très important donc pour la société, pour les femmes également. Leurs revenus diminuent en moyenne de 4% au cours des 4 années qui suivent le diagnostic de la ménopause. Et pour celles qui vivent dans des déserts médicaux, ces coûts peuvent encore augmenter.
C'est une triple peine pour les patientes qui vivent dans des zones sous-dotées en médecins et qui sont, comme par hasard, les zones qui socio-économiquement, si on l'évalue au travers du taux d'imposition du département, les plus économiquement faibles.
En avril dernier, la députée Stéphanie Rist avait rendu au gouvernement un rapport sur la stratégie de prise en charge de la ménopause. Elle a été nommée ministre de la Santé cette semaine. Les patients espèrent donc qu'elle n'oubliera pas de porter ce combat.
Libérer les free parties, slogan dans les rues de Paris aujourd'hui lors d'une technoparade revendicative organisée pour la deuxième année consécutive, alors que les free parties sont de plus en plus attaquées en France par les autorités. Bonjour Alexandre Gondeau.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en géographie et aménagement, directeur adjoint du laboratoire Télém d'Aix-Marseille Université. Alors début septembre, l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau affirmait sa volonté de réprimer davantage les free parties et que l'organisation de ces événements devienne un délit et non plus une contravention, s'inspirant ainsi de la législation italienne adoptée il y a 3 ans. Ajouté à cela, en mars dernier, une proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l'organisation de rêve party a été déposée à l'Assemblée par une députée Horizon. Est-ce qu'on assiste à un virage répressif en France et comment l'expliquez-vous?
Alors, est-ce qu'on voit un virage répressif? Effectivement, les deux annonces que vous avez rappelées le laissent penser. En tout cas, il y a une partie du paysage politique français qui souhaite être plus répressif. Et on l'explique parce qu'il y a un problème qui n'est toujours pas résolu en France, c'est le fait que chaque week-end, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de jeunes Français ne peuvent pas avoir accès à des zones festives sans discrimination, qu'elles soient pécuniaires, de genre, de vêtements, etc., etc. Donc cette problématique-là n'étant pas résolue, on se retrouve dans une situation qui est un peu inextricable.
Le mouvement des frais partis est apparu dans les années 90, notamment au Royaume-Uni, sous le gouvernement Thatcher. Et c'est un mouvement qui est toujours allé de pair hein, avec la répression. Ça fait même partie de son ADN. Est-ce que le changement des autorités viendrait du fait que les frais partis sont entrés un petit peu dans les mœurs et la culture ?
Alors effectivement, il y a deux éléments très intéressants dans votre question. Les free parties, la fête libre amplifiée est rentrée dans les mœurs et dans la culture festive française, européenne, occidentale, comme la culture sound system. Donc chaque semaine, vous avez des dizaines de free parties qui ont lieu partout en France et qui se passent très bien, que ça soit au niveau des interactions des gens au niveau de la free party ou avec l'extérieur. Évidemment, de temps en temps, il peut y avoir des débordements, des problématiques qui sont souvent extrêmement médiatisés, mais de manière générale, vous avez raison, la free party est rentrée dans les mœurs festives françaises. L'autre élément, c'est-à-dire de votre questionnement sur la répression, il me semble que parfois on a un zoom répressif qui nous fait penser qu'il y a de plus en plus de problèmes, alors que toutes les free parties qui se passent bien en France chaque week-end n'attirent pas trop la médiatisation. Donc je suis pas certain que la répression ait accru, d'autant que dans les années 90, il y avait une culture du secret qui faisait que la répression était un peu différente.
Vous qui avez travaillé largement sur ce mouvement, en quoi ces rassemblements sont une réponse citoyenne de la jeunesse face aux discriminations ?
Eh bien, en fait, tout simplement parce que lorsque vous n'avez pas la possibilité d'accéder à un club, une boîte de nuit, un pub, parce que vous n'avez pas les moyens financiers d'y accéder, ou parce qu'on vous interdit l'entrée en raison de votre couleur de peau, de votre genre ou de votre manière de vous habiller, vous vous retrouvez dans une situation qui est simple, ne pas faire la fête ou la faire autrement. Or, comme je le disais en propos liminaire, cette situation concerne des dizaines, des centaines de milliers de Français, de jeunes Français, tous les week-ends. Donc, en réalité, par la force des choses, ces jeunes Français s'organisent de manière spontanée et créent soit des petites free parties, soit des petits sound systems. De la même manière, et ça, chaque Français peut le comprendre, que pendant le Covid, la fête étant interdite, vous aviez également tout un tas de gens qui se retrouvant interdits de faire la fête, trouvaient des billets pour la pratiquer.
Alors, est-ce que finalement, c'est pas ça qui fait peur aux autorités ? C'est l'aspect politique de ce genre de fête ?
Il est évident que dans les free parties, il y a quelque chose qui est perturbant pour le système en place et les autorités, c'est que c'est une proposition festive qui sort de l'économie de marché et de la société marchande, et où sont pratiquées des expérimentations comme le troc, l'autogestion, le do-it-yourself, donc en fait des pratiques qui sont hors champ capitalistique classique. Ça peut poser un certain nombre de problèmes, mais honnêtement, on est dans une société mature, donc on peut aussi imaginer que nos représentants politiques peuvent comprendre le besoin et la nécessité de trouver d'autres solutions alternatives à un système qui aujourd'hui est en train de bégayer.
Les organisateurs de cette techno-parade revendicative cet après-midi souhaitent la reconnaissance de la culture free et que l'État accompagne cette richesse culturelle. Est-ce que vous partagez cette revendication ou n'est-ce pas de nature à dénaturer finalement la culture free ?
Alors, la précision est un tout petit peu différente. Il me semble que la revendication fait suite à la volonté du président de la République de faire rentrer au patrimoine mondial de l'humanité les musiques électroniques françaises. Ce à quoi les organisateurs de free party depuis une trentaine d'années rétorquent que la free party fait partie de ce mouvement électronique, voire en est même l'instigateur, en tout cas un élément très important. Et on trouve paradoxal, en tout cas quand je dis on, c'est les organisateurs de cette technoparade revendicative, trouve paradoxal que d'un côté on peut avoir un président de la République qui veut mettre en avant la musique électronique tout en occultant ses fondements, sa réalité. Or la fête libre amplifiée, la free party, les technivals sont rentrés dans les mœurs et font totalement partie de cette culture électronique française.
Merci beaucoup pour ces précisions, Alexandre Grondeau. Je rappelle que vous êtes professeur des universités en géographie à Aix-Marseille Université. Merci également à Aloïs Guérin pour la préparation. Le temps cet après-midi restera calme et ensoleillé sur la majorité des régions. Le ciel reste toutefois partiellement nuageux près des frontières du nord et des côtes méditerranéennes. Le retour des nuages sur la façade ouest apportera quelques gouttes sur la Bretagne dans la soirée. Le mercure affiche 14 à 19 degrés sur le nord, 19 degrés à 24 en moyenne sur la moitié sud. C'est la fin de ce journal préparé avec M. Le Chili. Noé Chaban à la technique.
France Culture. Je connais plein d'histoires, Je les confierai au micro le dimanche à 12h45 et vous aimerez peut-être écouter.
Ariel Wiesmann.
Un génie resté dans l'ombre, une idée improbable, le destin joue de la musique et la vie fait des entrechats. C'est ça, truculent, ou comment une histoire célèbre la force du singulier.
L'histoire truculente, ce dimanche à 12h45 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Une heure de radio sur la musique et en musique, c'est la série musicale.
Zoé Svez.
On se retrouve donc chaque samedi pour une émission toujours libre de tous les genres, de tous les récits, de tous les portraits, des grandes voix aux genres inconnus, des métiers cachés aux albums cultes, un récit toujours subjectif et non exhaustif avec un maître mot, le plaisir.
La série musicale, chaque samedi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Midi 46 sur France Culture, je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal. En attendant, c'est à vous Nathan Devers avec Sans Préjugés.
Merci Julie Paco, on vous retrouve bientôt pour un prochain journal.
France Culture, Sans Préjugés, Nathan Devers.
Qui aurait cru, il y a quelques années, que Donald Trump serait considéré par certains comme un candidat légitime au prix Nobel de la paix ? Qui aurait pensé que la lauréate de cette distinction humaniste dédierait son prix au président américain, affirmant qu'il le méritait au regard de sa capacité à mettre fin à des conflits ? Mais que veut dire le mot « paix » dans la bouche de Donald Trump ? Est-ce un élément de doctrine géopolitique ou bien un slogan en trompe-l'œil ? Comment expliquer que ce terme soit si souvent synonyme dans sa rhétorique d'une notion qui semble aux antipodes du droit international, l'obsession typiquement trumpienne d'échafauder des deals ? Si la guerre était, selon Clausewitz, la continuation de la politique par d'autres moyens, l'art de la paix est-il, selon Donald Trump, le prolongement de l'esprit de négoce et son application dans le champ des affrontements militaires ? L'extension du domaine du commerce à celui du tragique, en l'occurrence des drames sanglants qui marquent notre temps. Quand Donald Trump parle d'un avenir meilleur pour le Moyen-Orient, quand il promet depuis son retour au pouvoir de mettre un terme à la guerre en Ukraine rien qu'en dialoguant avec Vladimir Poutine, quand il se retire de chaque accord international qui lui paraît défavorable pour les États-Unis, quelle langue parle-t-il ? Celle de l'impérialisme américain, de l'isolationnisme, du populisme et du droit du plus fort, ou bien d'une néopolitique aux accents mercantiles ? Trump, la paix n'est-elle qu'un deal ? J'aurai le plaisir d'en débattre sans préjugés, aux côtés de l'essayiste Hakim El-Karoui, du grand reporter Gallagher Fenwick et de la géopolitologue Marie-Cécile Nave.
France Culture, sans préjugés, Nathan Devers.
Bonjour Marie-Cécile Nave.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche à l'IRIS, directrice de l'Observatoire Genre et Géopolitique et autrice de Géopolitique des États-Unis aux éditions Erol. Bonjour Gallagher Fenwick.
Bonjour Nathan.
Vous êtes grand reporter, spécialiste des questions internationales et ancien correspondant à Washington. Et bonjour Hakim El-Karoui.
Bonjour Nathan.
Vous êtes essayiste et auteur de Israël-Palestine, une idée de paix aux éditions de l'Observatoire. Alors, je voulais partir pour cette discussion d'une actualité récente, à savoir le prix Nobel de la paix qui n'a pas été remis à Donald Trump, mais à Maria Corina Machado, qui est une opposante vénézuélienne. Donald Trump, on va l'entendre dans un instant, estimait qu'il méritait ce prix plus que n'importe qui après avoir mis un terme à énormément de conflits. Et Maria Corina Machado elle-même a dit, à la fois dans une interview, et Trump l'a fait savoir parce qu'il a eu un échange téléphonique avec elle, qu'elle dédiait ce prix à Donald Trump parce qu'il estimait qu'il la méritait autant qu'elle, voire plus. Cette situation, je crois qu'elle était impensable en 2016, quand Trump est arrivé au pouvoir pour la première fois. Elle était impensable quand il a été réélu et qu'il est revenu à la Maison-Blanche il y a à peu près un an. Gallagher Fenwick, comment analyser le fait que Trump puisse être perçu par certains comme un faiseur de paix ?
Ben, d'abord, pour rester sur ce prix Nobel de la paix, la manière dont je l'ai interprété, je n'ai aucun moyen de le démontrer, donc c'est une proposition que je fais, c'est que le comité était quand même bien embarrassé par le formidable coup de publicité qu'il a reçu de la part d'un président qui s'évertue et s'entête à penser qu'il est seul à le mériter, et le caractère pleinement absurde que vous soulignez quelque part par votre question qui consisterait à le lui accorder alors qu'il vient et je ne cite que quelques exemples, de renommer son département de la défense en département de la guerre, qui fait exploser des bateaux vénézuéliens quand bon lui semble, qui menace le Groenland, le canal de Panama, le Canada d'annexion. Ça paraissait un peu poussé. Donc je crois que c'est un choix qui dit plus de cet embarras du comité Nobel, qui s'est dit, bon, à qui on peut le donner sans trop énerver Donald Trump? Et donc il trouve cette personne, dont il faut saluer, c'est vrai, Madame Machado, le courage face à un régime très très dur, à savoir celui de Maduro. Mais Machado elle-même n'est pas non plus une tendre. Il faut entendre ce qu'elle dit, la théorie, la raison pour laquelle elle salue Donald Trump, c'est parce qu'elle ne rêve que d'une chose. C'est une intervention militaire américaine. Elle souligne quand même la théorie kissingerienne, qui a quand même prouvé ce qu'elle valait, notamment en Indochine pendant la guerre froide, en disant si le Venezuela tombe, le reste suivra, c'est-à-dire les castristes du côté de Cuba et d'autres sur le continent latino-américain. Donc c'est franchement un prix Nobel assez étrange, mais qui correspond parfaitement à l'époque qu'on vit, où effectivement, vous vous retrouvez, Nathan, à me poser une question sur Donald Trump, faiseur de paix, point d'interrogation.
Oui, et Marie-Cécile Nave, il y a aussi une autre dimension, c'est que Donald Trump, depuis longtemps, pour le coup, quand il dit qu'il mérite le prix Nobel de la paix, c'est aussi avec une forme d'amertume vis-à-vis du fait que Barack Obama l'avait obtenu juste après son élection, après le discours du Caire, plus précisément, qui avait été un moment dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Et Donald Trump avance cet argument de dire, moi j'ai un bilan, Barack Obama a eu le prix Nobel de la paix alors qu'il n'avait encore rien fait, moi j'ai un bilan et tout le monde refuse de me le reconnaître.
Oui, il est certain que la comparaison avec Obama est majeure et que pendant son premier mandat, il s'est évertué à essayer de défaire autant que possible l'héritage d'Obama, en particulier en politique étrangère, avec les effets que l'on a vus en Iran, hein, par exemple avec le fait de déchirer l'accord sur le nucléaire iranien. On a vu les conséquences que ça a eu, c'est un exemple parmi d'autres. Et je crois